Chapitre 6. Nietzsche s'arrêta net pour observer la cité qui n'était pas là quelques secondes auparavant.
« Douce mère, la mer !»
s'écria Bannon en reculant d'instinct. Aussi grande que Tanimura, une ville fortifiée s'étendait jusqu'au bord du gouffre. Dans le silence revenu, Nietzsche et ses deux compagnons étudièrent les innombrables rangées de bâtiments en terrasse qui se succédaient sur la partie pentue de la plaine. Une main en visière, Nathan ne perdit pas une miette du spectacle.
« Esprit bien-aimé, les récits les plus fous et même les légendes n'ont jamais rendu justice à cette ville. À présent, je comprends pourquoi Crodacier voulait à tout prix la conquérir. »«
C'est Ildakar, »
dit Amos, comme si ça suffisait à tout expliquer.
« Beaucoup d'étrangers l'ont convoité, mais aucun ne l'a conquise. »
Leurs trois compagnons étant avares de détails, Nathan se tourna vers Nietzsche.
« Ildakar était la plus grande ville à l'extrême sud de l'Ancien Monde, un centre culturel et artisanal, et la capitale universelle de la magie. Les plus grands érudits en sont originaires, et les plus extraordinaires découvertes aussi. Dans les archives de surplomb du monde, les grimoires les plus précieux en sont issus. Des trésors vieux de 3000 ans.
« Depuis, notre ville est devenue plus glorieuse encore, »
dit pompeusement Amos. Après avoir ajusté sa cape doublée de fourrure, il avança vers les imposantes portes de la cité.
« C'est grâce à la protection du linceul, »
daigna-t-il expliquer.
« Si Ildakar était restée vulnérable, elle serait tombée face au général Outros ou à d'autres seigneurs de la guerre. »
Impressionné par les fortifications d'Ildakar, Nietzsche se protégea les yeux pour mieux les détailler.
Si Jagang avait connu cette ville, il aurait envoyé le plus gros de son armée pour la conquérir. Et ce Jagang, dont j'ignore tout, aurait échoué, comme les autres.
Amos eut un demi-sourire.
En abritant notre cité derrière un linceul temporel, nous avons évité les guerres, les dévastations et tous les autres fléaux. 15 siècles de solitude nous ont permis de créer une société parfaite.
S'arrêtant près d'un soldat de pierre moustachue, une grosse verrue sur le nez, Amos lui abattit sa massue sur le crâne. Leur fureur réveillée, Brock et Jed vinrent lui prêter main forte jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de débris. Agacé par ces manifestations de rage incontrôlée, Nietzsche ne sermonna pourtant pas les jeunes gens. Dans les armées de Jagang, elle avait assisté à de bien pires atrocités. Quand ils s'ennuyaient, les soldats de l'ordre impérial violaient, torturaient et massacraient leurs prisonniers pour se distraire. À côté de ça, les pires actes de vandalisme passaient pour d'innocentes transgressions. Dérangé par l'hystérie de leurs trois guides, Nathan sortit de la transe où l'avait plongé la soudaine apparition de la somptueuse métropole.
« La légende est vivante !»
s'écria-t-il.
« Ildakar, nous voilà !»
S'engageant sur les vestiges souvent difficiles à voir d'une grande route pavée, les 6 voyageurs avancèrent d'un bon pas malgré les mauvaises herbes et les racines affleurantes qui avaient fait éclater la pierre par endroits. En marchant, Nietzsche étudia les étranges bâtiments aux couleurs vives érigés sur le terrain en pente. Plus grande qu'Alterrang ou Heidendrill, Ildakar ressemblait de loin à un empilement de bâtiments séparés par des rues sinueuses, des jardins suspendus ou des vergers. Les hauts murs et les clôtures qui s'alignaient par rangées verticales formaient de curieuses défenses concentriques qui commençaient dès le mur d'enceinte franchi. Après les soldats de pierre uniformément grisâtres et la végétation sombre de la plaine, la cité était un feu d'artifice de couleurs. Sur les remparts, des étendards rouges ou violets battaient au vent. Derrière, sur les toits en mosaïque des maisons, le rouge, l'ocre et le noir composaient des motifs scintillants qui donnaient le tournis si on les regardait trop longtemps. Et que dire de certaines fenêtres à vitraux aussi lumineuses que de petits soleils. Sur les murs qui surplombaient les jardins suspendus, du lierre et des vignes formaient des fresques végétales qu'on eût dites dessinées par la main d'un géant. Derrière le mur d'enceinte, les divers quartiers de la ville évoquaient la configuration des pelures d'oignons. D'abord de petites habitations, puis de grands entrepôts, des tours de garde et enfin des esplanades publiques. Nietzsche pensa au palais du peuple, le fief de Richard. Un énorme complexe vertical installé à l'intérieur et au sommet du plus haut plateau qui dominait les plaines d'Azrit. Île Dakar était au moins aussi imposante et magnifique, mais avec une architecture plus fantaisiste, qui ne déniait ni les spires ni les arches aux courbes audacieuses. Aux abords du mur d'enceinte, Nietzsche et ses compagnons traversèrent les vestiges de profondes tranchées, des douves destinées à briser les attaques de cavalerie et comblées par le passage des ans. Aujourd'hui, ce n'étaient plus que des ravines et des vallons.
« Des siècles durant, » dit Amos, « les défenses classiques d'Île Dakar lui ont valu l'admiration de tous les voyageurs. Depuis l'érection du linceul, elles ne servent plus à rien. »«
Pour tenir le monde à distance, » ajouta Jed, « ce rideau magique suffisait. »
Quand ils avaient aperçu la cité depuis Colader, comprit Nietzsche, le dôme géant appelé le linceul fluctuait, peut-être parce qu'il faiblissait. D'après les rares informations lâchées par Amos et ses amis, le sort défensif avait depuis longtemps des défaillances passagères. Donc, ça n'avait rien à voir avec le changement stellaire provoqué par Richard. Les yeux rivés sur les remparts, Amos, Brock et Jed traînaient franchement les pieds. Même s'ils avaient parlé de prendre un bain et de banqueter, sans oublier les yaksen de soie, ils ne semblaient pas pressés de rentrer chez eux.
« Et si la cité disparaît sous notre nez ?» demanda Bannon avant d'accélérer le pas. « On tient à entrer, non ?»«
Pour trouver Île Dakar, » renchérit Nathan, « nous avons fait un long chemin. Je n'aimerais pas avoir marché pour rien. »
Par pur esprit de contradiction, Amos ralentit encore le pas.
« Maintenant que le linceul est tombé, la sauvrena et le sorcier en chef ne le relèveront pas avant au moins une semaine. Pendant ce laps de temps, la ville sera ouverte au monde extérieur. »
Nietzsche se réjouit à l'idée de rencontrer des officiels plus intéressés par des visiteurs que les trois jeunes chiens fous. Pour avoir souvent vu et subi des oisifs de leur genre, elle n'attendait plus rien d'Amos et de ses amis.
« Nous ignorons combien de temps nos affaires nous garderont en ville, » dit-elle. « Notre sorcier veut demander un grand service à vos dirigeants. »«
Quant à Nietzsche, » intervint Bannon, « elle est censée sauver le monde. C'est une voyante qui les a envoyés ici tous les deux. »«
Une voyante ?»
Amos roula de grands yeux.
« Une magicienne mineure ? Une devineresse de foire ? Ces femmes ne sont pas bien vues à Île Dakar. Chez nous, les détenteurs du don sont sérieux. »
Plus que las des voyantes, Nietzsche fut ravi d'entendre ça.
« Comment vos sorciers ont-ils fait pour dominer leurs adversaires ? Jadis, n'y avait-il pas de puissants pratiquants de la magie ? Ceux qui marchent dans les rêves, par exemple ?»«
La force d'Île Dakar, c'était l'unité de ses sorciers. Tous les sorts et les artefacts découverts lors de leurs recherches solitaires, ils surent les mettre en commun pour devenir invincibles. »
Au son de sa voix, Nietzsche devina qu'Amos répétait comme un perroquet ce qu'on lui serinait depuis l'enfance. Cela dit, ça semblait être vrai. Quand ils eurent atteint les fortifications, donc la première ligne de défense, Nietzsche et ses compagnons durent patienter devant des portes si impressionnantes que chacun de leurs panneaux de bois égalait au minimum la hauteur d'un grand arbre. Face à elles, aucun bélier n'aurait fait le poids. Et la magie ? Curieuse, Nietzsche tenta de déterminer si elle aurait pu entrer de force ou sortir selon les besoins.
« On va nous laisser entrer ?» demanda Bannon, intimidé.
« Pour sûr que oui !»
ricana Amos.
« Je suis le fils de la sauvrena et du sorcier en chef !»
Approchant d'une plus petite porte ménagée dans un des grands battants sur la gauche, il y frappa plusieurs fois.
« Ô capitaine Avery, vous êtes de service ? Ouvrez, je vous amène des visiteurs !»
Des voix retentirent de l'autre côté de la petite porte. Puis des cliquetis annoncèrent qu'on actionnait une serrure. Nietzsche sentit une décharge de pouvoir lorsqu'un autre verrou, magique celui-là, se désactiva. Enfin, la porte s'ouvrit pour dévoiler un bel homme en uniforme, une épaulière rouge sur le côté gauche. Brillant au soleil, son plastron à écailles lui couvrait le torse mais laissait ses bras nus. Malgré la chaleur, il arborait une cape doublée de fourrure, la peau d'un animal que la magicienne ne parvint pas à identifier. Une dague et une épée courte accrochées à son ceinturon, il portait des hautes chausses et des bottes montantes à revers. Ignorant les visiteurs, le capitaine s'adressa à Amos.
« Voilà un moment que nous attendons ton retour, jeune homme. »
Suivi par ses deux amis, le fils de la sauvrena et du sorcier en chef franchit le seuil.
« Quoi que vous fassiez avec ma mère, capitaine, je ne suis pas à vos ordres. »
Amos jeta un coup d'œil au visiteur qui attendait toujours d'être présenté.
« Voici le haut capitaine Avery, chef de la garde d'Île Dakar. Il saura que faire de vous. Capitaine, la femme est une magicienne et l'homme prétend être un sorcier. Allez en croire, ils viennent de loin pour accomplir je ne sais quelle mission chez nous. Je vous les confie. Conduisez-les chez mes parents dans la tour du pouvoir. »
Perplexe, Amos se tourna vers Bannon.
« Tu veux rester avec tes compagnons de voyage, j'imagine ?»«
Absolument. »«
Si ça te chante. » »« Bon, mes amis et moi, nous n'avons pas que ça à faire. » »«
Si on filait au terme, »
proposa Jed,
« les esclaves nous apporteront à manger. » »«
Tu ne voulais pas commencer par les Yaksen de soie ?» demanda Brock.
« Ce soir, »
trancha Amos,
« ce n'est pas le temps qui nous manque. »
Sans un regard en arrière, les trois jeunes oisifs s'éloignèrent, laissant les visiteurs avec l'austère capitaine.
« Suivez-moi, » lâcha-t-il.
Dès que tout le monde fut entré, il referma la porte, la verrouilla, puis mit en place une série de barres. Sa tâche achevée, il eut l'ombre d'un sourire.
« Bienvenue à Île Dakar, étranger. »